Merci d'être venu avec un si beau temps dehors. Je vous félicite d'avance pour votre présence. Je ne vous félicite pas encore pour votre attention. On va voir au fur et à mesure parce que effectivement c'est le premier beau jour qu'on a eu depuis le début d'hiver qui est très très long maintenant. Donc on va peut-être essayer de raccourcir, de faire plus vite. On peut faire notre enseignement d'une façon très intense. Et donc on peut tout apprendre très vite et comme ça vous pouvez partir un peu plus tôt. On sera tous ravis de pouvoir faire ça, n'est-ce pas? Oui, un quart d'heure, on se donne un quart d'heure pour s'éveiller complètement, n'est-ce pas? Un jour il faut qu'on se donne ce genre de défi. Pourtant ça me rappelle un petit peu de quelque chose que l'auteur du cours essaie de nous dire, Jésus essaie de nous dire, que le temps n'a pas le sens qu'on lui donne. Le temps peut être raccourci énormément si nous le souhaitons. Trouver notre vrai objectif n'a pas besoin de prendre autant de temps. D'accord? Et je crois que nous le savons tous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui n'avance pas forcément toujours avec une volonté à 100%. Hein? Même des fois, même pas à 90%. C'est-à-dire, si on a une volonté qui veut avancer vers le bonheur et l'apaisement à 50%, on fait déjà bien. Ouais. Et ça nous rappelle aussi que, dans le langage d'une cour en miracle, que nous avons ce que nous appelons un esprit juste, un esprit divisé entre notre esprit juste et notre esprit faux. Voilà. C'est-à-dire, on ne va pas dire 50-50, c'est-à-dire nous sommes une totalité dans chaque esprit, mais nous avons deux esprits et c'est un esprit divisé pour l'instant. Jusqu'au jour qu'on a complètement défait notre esprit faux et on a souhaité demeurer dans notre esprit juste à ce moment-là, on peut dire que voilà, l'esprit faux n'a plus d'incidence, n'a plus de présence, n'a plus de conséquences ou substances pour nous, et on est entièrement dans notre esprit juste tout le temps. Et à ce moment-là, voilà, c'est notre objectif, c'est notre but. Mais si nous avons encore de l'esprit faux encore et toujours, dans le sens que ce n'est pas une chose mauvaise, c'est juste la source de toute notre confusion. Et notre identité, en dehors de notre vraie identité, c'est le nom que nous donnons à la partie de nous qui ne souhaite pas savoir pour l'instant qu'il a une autre vraie identité. Et cette vraie identité, avec une I majuscule, est entièrement jointe avec sa source, avec l'amour. Parce que vous vous rappelez quand même que ce cours, ce qui est après tout juste, c'est un livre, mais c'est tout un enseignement qui nous enseigne par métaphore. Et la métaphore que ce livre utilise, c'est celle d'un voyage. Un voyage que nous avons fait de notre vérité vers notre illusion, vers une sorte de fausse identité. C'est tout ce que c'est. C'est pas plus grave, c'est pas plus méchant que ça. C'est un simple petit voyage du ciel vers une terre d'illusion, littéralement. Ce qui est aussi en même temps un voyage de l'amour vers la peur. De la paix vers l'inquiétude, vers la peur, vers la terreur. D'accord? De la bienveillance, de la grâce et de la gentillesse, tout avec une majuscule, vers l'infiniment petit, mesquin, une qualité de haine, de méchanceté. D'accord? Mais c'est un petit voyage. Dans le langage du cours, c'est même pas un vrai voyage. C'est un voyage que nous semblons avoir fait. C'est ça? Oui, nous semblons avoir fait. D'accord? Le problème, c'est que nous pensons tellement fort que nous avons fait ce voyage, que nous nous sommes convaincus l'avoir fait en vérité. Maintenant, tout ce que nous ressentons comme difficulté pour faire ce chemin, c'est simplement de reconnaître la réalité telle qu'elle est et de reconnaître des illusions telles qu'elles sont. C'est tout ce que c'est, la difficulté que nous avons pour faire ce chemin. Est-ce que ça, ceci peut être vraiment difficile, de reconnaître la vérité telle qu'elle est, et une illusion pour celle qu'elle est? La difficulté en tout ceci, c'est que si je pense que je fais partie du monde des illusions, ceci veut dire qu'il va falloir que je considère la possibilité que je suis une illusion en même temps que toutes ces illusions que je suis en train de regarder. Au moins, le petit moi que j'ai toujours pris comme tellement important depuis si longtemps, j'ai quasiment fait un édifice à moi-même, que j'appelle par mon prénom, par mon nom, par mon histoire, par toutes mes souffrances d'enfance, par tout ce que j'ai vécu pendant l'école, avec les maîtresses d'école, les multitudes de différentes expériences qui tissent l'histoire de ma vie. Toutes mes inquiétudes, toutes mes difficultés, tous mes problèmes, mes dépressions, mes névroses, les difficultés, les challenges que j'ai pour trouver le bon travail, la bonne rémunération. Tout ce que je considère comme ma réalité de l'existence, mes différents avis politiques, le monde dans lequel je pense habiter, pas d'une façon neutre, mais d'une façon chargée d'opinions. Tout ceci, je dois apprendre au fur et à mesure, fait partie de cette illusion, pour que je puisse enfin, à la fin, reconnaître ce qui est la vérité. Je vais devoir mettre en question chaque valeur que j'ai, chaque idée, chaque pensée que j'ai, que ce monde, ce n'est pas que ce monde n'est pas réel, mais c'est que mes jugements sur ce monde ne sont pas importants. C'est ça la transition, c'est ça la nuance vraiment du cours. C'est-à-dire, un cours en miracle n'est pas la seule spiritualité à proposer l'idée que ce monde est une illusion. Loin de ça, il y en a d'autres. Il y a le bouddhisme et différents courants de l'hindouisme. Vous pouvez aller plus loin dans l'Orient et trouver le taoïsme. Et vous allez trouver différentes spiritualités qui disent pareil, que ce monde est une illusion. Le cours dit pareil. Le cours dit la façon que nous allons approcher la vérité derrière l'illusion n'est pas juste en répétant ce monde est une illusion, tout est une illusion, ceci, cela, ça. Il y a peut-être certains individus qui sont capables de faire le saut dans le vide et de faire littéralement le vide de leur petit esprit pour lancer cette grande invitation à leur vérité d'enfin venir occuper leur esprit. Il y a peut-être des gens. La plupart d'entre nous, ce n'est pas notre chemin. On fait un chemin beaucoup plus progressif. C'est-à-dire, on avance progressivement vers cet objectif, vers cet but. Et donc, le schéma que un cours en miracle nous donne pour faire ce chemin d'une façon plus progressive, c'est ne pas considérer que ce monde est une illusion, mais regarder la façon que je rends réel ce monde dans ma perception. La façon que je rends réel ce monde dans ma perception, c'est par mes jugements. Tout ce que je prends tellement réel, je lance un jugement, j'avance un jugement, je propose les jugements, je prends tous mes avis, j'ai une idée ferme, une idée solide sur quelque chose. C'est comme ça, je concrétise ce monde dans ma vision, dans ma vue, dans mon expérience. Moi, j'ai une expérience par rapport aux choses que je considère réelles. Pas par rapport aux choses que je considère des illusions ou inexistantes. Et la façon que je rends ces choses réelles dans ma perception, c'est avec une sorte de conviction derrière, avec une sorte de jugement, avec une pensée qui dit, ceci-là, c'est réel. Et je sais que c'est réel parce que ça a un effet sur moi. Il y a toujours, vous pouvez toujours regarder, si vous êtes dérangé par quelque chose, vous grattez un petit peu et vous allez toujours voir, quelque part, il y a une pensée forte, une conviction, un jugement. Et c'est ça que nous cherchons à faire dans tout ce processus des ateliers, c'est de commencer ce chemin pour développer une sorte de sensibilité intérieure, une sorte d'écoute, ou une sorte de regard, une vision, ce que le cours appelle la vision, qui est la vision à partir de notre esprit juste, pour pouvoir devenir sensible à notre environnement, la façon que je rends réelle cette existence, ce monde, mon petit moi, mon petit soi, dans ce monde que je considère tellement réel. C'est quoi la façon que moi, j'utilise pour rendre tellement réel ce monde autour de moi? C'est mes convictions, mes perceptions, mes jugements, mes croyances, mes convictions, j'ai déjà dit. Donc, dans cette série d'ateliers, pour pouvoir faire ce fameux voyage dans le sens inverse, pour trouver qu'à la fin, nous n'avons même pas fait un vrai voyage, nous sommes toujours au sein du ciel, dans nos fameux fauteuils, au ciel, au paradis, entre guillemets, tranquillement assis dans nos magnifiques fauteuils confortables. Nous n'avons jamais bougé, nous nous sommes juste endormis. Et donc, nous avons l'opportunité maintenant de reconnaître ce fait à la fin de ce processus, de devenir sensible, voilà, sensible à toutes ces différentes façons que nous rendons réel ce monde dans notre perception. Donc, un cours en miracle nous a parlé de ce voyage comme un voyage de séparation. Une séparation que nous avons souhaité faire, mais une séparation qui n'est pas réelle, qui ne peut pas être réelle. Maintenant, la façon que nous rendons cette séparation réelle dans notre perception, c'est de dire constamment qu'il y a des différences entre les choses. C'est cette idée de différence entre moi et les autres qui donne la substance à cette idée de séparation. Comment est-ce que je sais que je suis séparé des autres? Bah, nous sommes tous différents déjà. Nous sommes tous différents. Moi, je ne suis pas comme mon voisin, je ne suis pas comme le maire de mon village, je ne suis pas comme le président, nous sommes tous un peu différents. Je ne suis pas comme ma femme, je ne suis pas comme mes enfants. Cherchez un petit peu et vous allez voir qu'il y a très très peu d'idées dans nos esprits de ce qui nous joint dans un esprit pareil. Nous unit. C'est le coup utilise le mot très souvent joindre, mais en français, je crois que ça s'utilise moins. Voilà, ce qui nous unit, ce qui fait en sorte que nous sommes tous un et tous pareils. Parce que s'il y a une qualité qui reflète la nature de notre vraie existence du ciel, de notre vraie identité, c'est que tout est pareil parce que tout est uni. Nous partageons une seule véritable réalité, une seule véritable identité. Encore, le cours n'est pas le seul à proposer cette idée-là. C'est une magnifique identité. Le terme qu'utilise un cours en miracle dans son langage chrétien, c'est l'enfant parfait de Dieu, mais un seul enfant. Nous sommes cet seul enfant parfait de Dieu. Il dit aussi que Dieu a eu un seul fils et nous le sommes. Ce qui veut dire que quelque part, nous sommes chacun et beaucoup, beaucoup plus que ceux qui pensent, que ceux qui croient. Et c'est notre désir, notre aspiration, c'est d'aller vers cette vision pour comprendre comment est-ce possible que nous pouvons tous faire partie de ce magnifique esprit qui nous unit quelque part, là-bas. On ne sait pas où c'est, parce que ça n'a pas d'endroit. Ça n'a pas d'endroit, ce n'est ni dans l'espace, ni dans le temps. La façon que nous avons concrétisé cette sorte de voyage, c'est en ayant accepté une toute petite idée que nous pouvons nous séparer de cet ensemble magnifique de notre vraie identité. Une idée que le cours appelle une minuscule et folle idée que nous avons pris au sérieux, le MFI. C'est le minuscule et folle idée, ce qui est très important parce que minuscule veut dire que c'est extrêmement petit. Folle, qu'il n'y a aucun sens derrière. Ah, et c'est juste une idée, ce n'est pas plus, qui est responsable pour absolument tout. Déjà l'existence de ce monde en dehors de la lumière céleste du ciel, déjà et après la traduction dans la vie ordinaire, c'est de toutes nos difficultés, tous nos états d'âme, tous nos petits soucis, nos grands soucis. C'est juste une idée, c'est juste des idées derrière. Derrière notre petite idée de séparation, de difficulté, de malheur, de tristesse, il y a une autre qualité, il y a une autre réalité qui est magnifique, qui est belle, qui nous attend tranquillement, doucement, pour qu'on avance vers elle, pour réclamer et reprendre ce qui est à nous. Donc, avec cette minuscule et folle idée, la raison que cette minuscule et folle idée prend de telles proportions, c'est parce que nous l'avons pris au sérieux. Nous l'avons pris pour argent comptant. C'est-à-dire, il n'y a aucun souci d'avoir une idée. Vous pouvez avoir autant d'idées que vous voulez. Mais une idée, un concept dans votre esprit ne va pas avoir un effet quelconque avant que vous l'investissiez avec une certaine importance ou certaine réalité, avant que vous disiez, c'est pas juste une idée, c'est une réalité, c'est une chose véritable. C'est-à-dire, imaginez que, voilà, une amie passe vous voir et à la maison vous appelle, vous laisse même un SMS et vous dit, tu sais, j'étais chez Nanyanya l'autre jour et ils ont parlé de toi. Et ils n'ont pas parlé de toi en bien. D'accord ? Alors tu dis, ah bon, ok. Et comme tout le monde, vous êtes un petit peu sensible à ce qu'ils pensent les autres de toi. On va essayer de savoir pourquoi on est sensible à ça, parce que peut-être il n'y a pas de raison. Mais bon, pour l'instant, on est sensible à ça. Alors, on vous lance une idée, ok. Certaines de vos amies ne pensent pas en bien de toi. Alors, c'est à vous de voir, est-ce que c'est une idée importante? Parce que c'est juste une idée. Et vous allez savoir par votre réaction. C'est tout. Si vous pensez que c'est une idée importante, l'effet sera ma gêne, sera votre gêne. Je suis contrarié. Là, ils m'ont trahi. Franchement, je pensais mieux d'eux. Je pensais vraiment, c'était pas comme ça. Ils m'aimaient bien, mais sincèrement. Ils étaient des gens sincères. Ils n'étaient pas capables de parler en mal de quelqu'un derrière leur dos et tout ça. Là, ils m'ont profondément déçu. Et après, peut-être, on apprend qu'en fait, ce n'était pas du tout de toi qu'il parlait. D'accord ? Mais il parlait de quelqu'un qui était particulièrement méchant dans leur entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une montagne d'une petite idée qui était fausse au départ, qui n'était même pas destinée à nous. Et c'est juste pour démontrer qu'il y a quelque chose en nous qui est en train de décider s'il va donner une certaine véracité, une vérité à des idées. Et à ce moment-là, ces idées deviennent capables d'effet sur nous et éventuellement peut-être dans notre comportement, dans notre entourage. Parce qu'imaginez, cette personne qui croit à cette idée va peut-être commencer à traiter les autres d'une façon vraiment bien différente. Les anciennes amies... qui deviennent maintenant des anciennes amies, sont plus traitées de la même façon, peuvent avoir des effets sur plusieurs plans. Mais le premier effet, c'est l'effet sur moi-même. C'est-à-dire, je suis plus dans mon calme. Je suis plus du tout dans mon centre calme. Je suis sorti de ça, je suis maintenant dans un autre espace de dérangement. Juste parce que j'ai fait en sorte qu'une idée qui passait, qui juste traversait le champ de ma vision ou de mon écoute, moi j'ai dit, ah, celle-là, elle est importante. D'accord ? Je vais prêter une attention particulière à celle-ci. Pourquoi je parle de tout ça ? C'est parce que dans ce processus que nous pratiquons ici dans ces ateliers, nous sommes là pour peaufiner notre écoute. C'est toutes nos perceptions qui déterminent notre expérience de la vie. Mon expérience dans la vie est déterminée par mes perceptions et mes interprétations de ce qui se passe autour de moi. Des choses qui passent devant mon champ de vision, mon champ de conscience. Ah, ça c'est intéressant, ça c'est important. Parce que nous sommes bombardés par les milliers, voire les milliards de différentes idées et d'impulsions et influences par jour. Mais moi, je trie. Je trie constamment la télévision, ce qui dit ma femme, ce qui fait mes enfants, la condition de ma maison, les factures qui rentrent, plein de différentes choses. J'ai plein de différents petits morceaux d'informations qui arrivent sur le seuil de ma porte tous les jours, le seuil de ma conscience. Et après, c'est ma perception et mon interprétation de tout ceci qui va déterminer si je suis heureux ou pas heureux. Si je suis satisfait ou pas satisfait. Nous ne menons pas nos vies vraiment d'une façon aussi automatique que ça. Nous pensons presque tous que dès que nous le levons le matin, le jour se fait quasiment d'une façon automatique. On contrôle nos mouvements, mais on ne contrôle pas vraiment ce qui se passe dans la vie, on ne contrôle pas trop ce qu'on ressent. Et donc, nous ne sommes pas à l'affût du fait qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui est en train de décider. Le décideur, ce que nous appelons dans la philosophie de Kenneth Wapnick, c'est le décideur qui va toujours choisir s'il va prendre une information et le mettre de côté de l'esprit juste ou de l'esprit faux. Dans l'esprit faux, je vais toujours utiliser les informations qui entrent pour confirmer déjà, mon importance, mon existence séparée des autres, pour renforcer les différences, et surtout pour renforcer que je suis souffrant à cause de l'extérieur. Ce qui revient à notre grande histoire métaphysique, cette séparation s'est faite, entre guillemets, d'accord ? Une fois qu'elle est faite, je me sens tout à fait séparé, je me sens tout à fait moi-même différent des autres, dans mon corps, mais un grand bémol. Je ne peux pas possiblement me séparer de la présence de l'amour et me sentir bien. C'est impossible. Justement, par définition, je ne voulais plus faire partie de la grande famille de Dieu, de l'amour. Je me sépare pour avoir une expérience à côté. Je dois attendre, je dois imaginer. Bon, voilà, je ne vais plus me sentir tout à fait pareil. Encore, ce n'est pas une question de notre présence physique et de perdre le corps. C'est une question de notre état d'esprit, de notre choix d'esprit. À n'importe quel moment, nous pouvons choisir simplement de retourner notre pensée vers l'unité parfaite, vers la vraie identité qui nous englobe et qui nous embrasse tous, et je vais ressentir de nouveau la majesté, la qualité magnifique de l'apaisement de l'âme qui est possible pour nous tous. Mais une partie de moi persiste avec son « je » pour l'instant, qui dit, je suis séparé, je ne fais plus partie de la grande famille de Dieu, bon, tant pis, mais bon, voilà, effectivement, j'ai récolté cette quantité de mal-être, de malaise. Forcément, parce que je ne fais plus partie de l'amour, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas en rester là, je ne peux pas le garder, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je ne veux même pas le mettre en question, parce que si je le mets en question, ça veut dire, il faut que je me gratte la tête, je me dis, bah tiens, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Et à ce moment-là, je vais dire, bah oui, c'est à cause de ton choix de séparation. Si tu défais ton choix de séparation, si tu retournes ton esprit vers Dieu, à la droite, à ce moment-là, il n'y aura plus de soucis. Oui, mais je n'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Je n'ai pas envie parce que si je me retourne vers Dieu, je vais perdre ce que je pense être. Cette importance que je me suis donnée tellement différente des autres. Il faut que je considère que je suis comme eux, comme les autres. J'ai pas envie. Je veux pas que je sois complètement unifié avec eux pour l'instant. Ben d'accord, ben débrouille-toi dans ce cas-là. Et il se débrouille. Et la façon que notre petite identité se débrouille, il dit bon, mal-être. Je sens une quantité de culpabilité et tout ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je peux pas le garder. Bon, je vais mettre une bonne couche, une bonne chape dessus. Comme ça, je vais pas savoir. Ok, c'est bon. Ça marche pas très bien. Comme on a vu, le boss sous le tapis. Bon, c'est pas ma faute. Je me sens comme ça, c'est pas ma faute. Quelle décision de séparation? Rien de tout. C'est les autres maintenant. comme on a vu plein de fois déjà, il se passe quelque chose dans ma journée, ben voilà, c'est à cause de celui-là, comme on a vu, c'est à cause de celui-là, projection. J'ai mal à cause des autres systématiquement. Je sais que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, et je tiens un petit peu à répéter chaque fois parce que dans notre vie ordinaire, nous ne pensons pas que ce que je suis en train de ressentir est en fonction de quelque chose qui est en train de se passer chez moi. Nous pensons presque systématiquement que l'expérience intérieure vient en fonction de l'extérieur. Nous pensons qu'il se passe des choses à l'extérieur et le résultat, c'est un effet à l'intérieur. Et c'est faux. C'est une trompe-l'œil. C'est une trompe-l'œil de l'ego, de notre individualité qui ne veut pas savoir qu'absolument tout se passe systématiquement à l'intérieur de notre esprit. Il n'y a aucune cause à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous déranger, qui peut nous faire sortir de notre centre profond, basé juste dans la présence de l'amour, si nous le souhaitons, si telle est notre volonté. Donc, l'idée de la projection, l'idée que l'extérieur m'affecte, me sert très bien. Il m'en sert pour dire, ben, voilà, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai passé une mauvaise année, j'ai passé une mauvaise décennie. J'ai passé une mauvaise décennie à cause de tous ces trucs-là qui se sont mis sur ma route. J'ai pas eu trop de choix, j'ai dû subir toutes ces choses-là. Ça me convient comme histoire. Ça convient énormément à ma petite identité qui s'en sert pour dire j'existe toujours, je suis séparé, j'ai pas l'amour de Dieu, et ben c'est pas ma faute. Voilà, je suis vraiment désolé. Mais voilà, si la vie aurait pu m'accorder d'autres circonstances, j'aurais pu dire, ben, il n'y a pas de souci, Dieu m'a regardé favorablement, tout va bien, je baigne dans l'amour de Dieu. Okay. Et j'occulte complètement ma propre responsabilité et mes propres choix. Je ne regarde pas en direction de mon décideur, je ne regarde pas en direction de mon esprit juste et tous mes choix et tout ceci, cela, tralala. Okay. Donc, ça c'est pour la petite synthèse encore, je tiens un petit peu à faire à chaque fois pour que nous puissions savoir pourquoi nous faisons tous ces exercices, qu'est-ce que nous essayons d'accomplir. Et l'idée, c'est de développer notre sensibilité, notre écoute intérieure à tout ce qui se passe. Parce que dans la vie quotidienne, l'ego est en train de nous raconter tous les jours. On a une partie de nous qui est en train de nous expliquer pourquoi nous ressentons comme ceci, comme cela. Si nous ne ressentons pas la parfaite plénitude et complétude de Dieu, c'est parce que je viens de recevoir la facture de l'EDF. C'est clair. Ou c'est parce que, voilà, le prix du gasoil vient de monter, d'augmenter encore. Bon, les impôts, je te dis pas, les impôts, Ou les frais scolaires, ou je ne sais pas quoi, mais on a tous des milliers de différentes choses qui semblent être de cause de ce que nous sommes en train de ressentir. L'idée pendant cette série de stages, que nous développons notre écoute intérieure pour voir un autre mécanisme, ce que le cours appelle un système de pensée. Il nous apprend maintenant que nous sommes entièrement habités par deux systèmes de pensée entièrement différents. Le système de pensée du monde en général, de l'ego, de l'esprit faux, de notre train-train de vie qui dit voilà mon expérience, j'ai passé une journée un petit peu moyenne à cause de ceci, cela. Et l'autre système de pensée entièrement différent et juste qui dit non, ton expérience de la vie est entièrement ton choix parce que tu disposes à chaque instant un centre calme et parfait en dehors de toutes ces différentes influences et ce qui semble les différentes causes de dérangement dans ta vie, de toutes ces différents événements, tu disposes d'un endroit, vraiment précieux, où vous pouvez vous réfugier à chaque instant de la journée, quand vous y pensez, pour retourner. Et là, vous allez avoir une perception complètement différente de votre vie, sans que les choses changent. Les choses n'ont pas besoin de changer à l'extérieur. Pour que vous ayez une expérience profonde d'apaisement, de tranquillité, d'un peu de recul, un peu de détachement, pour que les choses ne vous affectent pas. Ne vous affectent pas de la même façon, ne vous affectent pas du tout, ne vous affectent pas avec cette certaine sensibilité peut-être que vous avez eue tout le temps, par rapport à une certaine personne, une certaine situation, de partenaire, de personne dans votre passé, un souvenir, peut-être quelqu'un même qui est décédé, par rapport à un avenir incertain. Vous avez une sensibilité, une réactivité. Et donc, la promesse maintenant du cours, c'est qu'il existe en nous tous un endroit de refuge, ce que nous appelons l'esprit juste. Donc, le bonheur et l'amour, comme j'ai dit dans le passé, sont des constantes dans l'existence. Malgré notre perception du contraire qui dit, bah non, il y a des jours qui sont plus joyeux que d'autres. Et puis il y a des moments de plus de bonheur que d'autres. Quand je suis au bord de la mer avec un joli coucher de soleil, mon quotient de bonheur augmente dramatiquement. Quand je me lève et il fait un xième jour de pluie, le coefficient de bonheur est presque au plus bas. Okay? Dans l'autre système de pensée, on nous apprend que c'est pas tout à fait comme ça. Il y a une constante de bonheur avec un grand B, d'amour avec un grand A, de complétude, un grand C, et de satisfaction avec un grand S. C'est des constantes dans l'existence. C'est notre envie de retourner les visiter, les voir là où ils sont. Si c'est le cas, qu'il y a une sorte d'endroit où ces constantes demeurent, de bonheur, satisfaction, complétude, amour, perfection, bienveillance. S'il y a un endroit où ça demeure, ok? Si toutes ces merveilleuses choses ne sont pas dans notre vision, on peut conclure que ce n'est pas parce qu'elles sont absentes, mais parce qu'il y a autre chose qui a pris leur place. Et nous pouvons appeler ces autres choses simplement nos perceptions ou nos pensées de non-bonheur, non-amour, non-complétude, non-satisfaction, non-bienveillance, non-gentillesse. Okay? Comme ça, on peut voir juste la juxtaposition entre ceux qui sont des constantes dans notre esprit, dans l'existence, ces choses merveilleuses, et leur absence. Ce n'est pas parce qu'elles sont absentes, c'est parce que nous avons fabriqué, nous avons rempli nos esprits avec autre chose à la place. Maintenant, comment on va les appeler, ces pensées et ces perceptions de non-amour, non-gentillesse, non-complétude, non-satisfaction et tout ça? Nous allons les appeler le jugement, okay, la haine, la peur, l'anxiété, le manque, la privation. Et à la fin, c'est juste les pensées avec lesquelles nous avons rempli nos esprits pour prendre la place des autres choses qui sont véritablement toujours là. Mais nous focalisons tellement sur ces pensées de haine, de peur, de manque, de privation, etc., que nous ne ressentons plus la présence de ces autres choses. Dans le processus du cours, et c'est comme ça qu'on va glisser vers notre atelier, le processus du cours, ce n'est pas juste de constamment dire « Je suis rempli d'amour, je suis rempli de joie, je suis rempli de bienveillance, ça c'est des choses constantes dans la vie. » Ce n'est pas ce processus-là, autant que ça peut être très très utile et qu'il y a des spiritualités sincères qui utilisent ce genre de méthode, et ce n'est jamais du refus. C'est simplement que si nous essayons de faire ceci tout le temps, nous n'allons pas pouvoir faire tout le chemin. Parce que, au fond de nous, nous gardons toujours cette masse, cette quantité de pensées de non-amour. C'est-à-dire, on peut essayer d'augmenter notre conscience des pensées d'amour, mais il va toujours rester cette masse de pensées de non-amour. Et il faut les traiter. Il faut les regarder. Et dans la philosophie du cours, c'est ces pensées-là qui sont le véritable problème. Le véritable problème. Parce qu'on s'accroche dessus, sur ces pensées de non-amour. Pourquoi je m'accroche avec une telle ferveur et dévouement à ces pensées de haine, de peur? Pourquoi j'aurais autant d'investissement dans les pensées de peur et de haine et de non-gentillesse et de différence? C'est pour une raison très importante et très très précise. Parce que seule ma petite identité existe seulement à travers ces petites pensées mesquines. J'ai besoin d'elle pour survivre. J'ai besoin d'elle pour continuer. Si je fais disparaître ces petites pensées, il y a ma petite identité qui va partir avec. Et bien, il y a une partie de moi qui n'a pas encore envie de ça. Voilà, j'ai pas envie. Et la raison que j'ai pas envie, c'est parce que je ne me rends pas compte le prix que je paye pour les garder. Parce que je ne les vois pas. Je ne vois pas à quel point, chaque fois que je vois une différence entre moi et mon voisin, ou avec le maire, à qui je garde une certaine petite grief, parce que, après tout, les permis de construire, c'est qui les reçoit? C'est ses copains. On ne connaît pas cette histoire. Vous connaissez un peu, hein, ce genre de choses. Ou, voilà, l'employeur qui favorise certaines personnes aux dépens d'autres. Je ne veux pas voir tous ces gens-là, les méchants, les gens que moi j'ai déterminés sont les méchants dans ma vie, je ne veux pas les voir, eux, inclus dans ces grandes familles d'unité parfaite d'amour. Le maire? Quoi? Ben, si seulement c'était possible, mais s'il y a un enfant qui est exclu du paradis, ben, c'est lui. Et nous avons tous une idée de quelqu'un qui sera exclu du paradis. Ça, c'est une garantie. N'importe, sauf si vous êtes un saint, et c'est-à-dire votre esprit est déjà complètement éveillé au Christ, à la vérité, vous allez tous avoir une idée, un concept de quelqu'un qui, pour vous, ne méritait pas d'être inclus au sein de la grande famille de l'amour de Dieu. Et notre but, c'est de trouver, c'est qui cette personne que j'ai exclue? C'est qui cette personne contre qui je garde un grief? Ça, c'est mes pensées de non-amour. Ça, c'est mes pensées qui vont bloquer comme un mur, comme un nuage épais devant la présence de la lumière et de l'amour, qui sont là les constantes dans l'existence. C'est pour ça. Cet atelier est bâti autour, cette série d'ateliers est bâti autour des questionnaires et des questions. Chaque rencontre, ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter couche par couche notre sensibilité à notre environnement intérieur. C'est parce que nous ne voyons pas nos pensées de non-amour que nous arrivons à les garder. Si nous les voyions clairement, nous pourrions décider de ne pas les garder. Mais si nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas changer notre choix. Donc, c'est là où ceci rejoint la psychologie freudienne, de remonter à la surface de l'inconscient ce que nous avons enseveli dans l'inconscient, dont on parle de déni et le refoulement, pour le faire venir à la surface, pour le voir, pour décider si nous voulons le garder. Mais pour déterminer ce que nous voulons garder dans notre esprit, il faut d'abord savoir, il faut d'abord regarder. Mais si on a eu trop peur dans le passé de savoir ce que nous avons dans l'esprit, on ne va pas regarder parce qu'on ne va même pas savoir que c'est là. C'est pour ça que nous avons besoin d'aide qui vient de l'extérieur. Et c'est ça que vous avez tous décidé de faire, c'est de vous joindre à une étude, une philosophie, une recherche. Pour l'instant, à ce moment-là, vous avez choisi un cours miracle, ça sera peut-être autre chose par la suite, pour essayer de comprendre ce qui est au fond de vous, pour enfin juste savoir la connaissance de soi, la vraie connaissance de soi. Pas juste les anges et les arcs-en-ciel, mais aussi les oubliettes. Ça, c'est la pleine connaissance de soi. On veut tout savoir. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. le cours nous dit à combien de différentes reprises que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'es pas seul et il n'y a rien à craindre. Il dit c'est la peur qui est la cause de la peur. Nous avons peur de voir quelque chose qui n'est même pas là à la fin. La première étape que nous avons fait, c'était quoi? Nous avons fait la dernière fois. Et le quoi, c'était pour développer notre sensibilité par rapport à la raison pour laquelle cette contrariété existe. Pendant ce stage, nous regardons les cas réels, les cas concrets, des choses qui nous dérangent. Nous utilisons des situations précises comme un laboratoire, comme une école, pour découvrir comment il peut avoir une vérité derrière. Mais pour faire ceci, nous devons d'abord savoir ce que nous sommes véritablement en train de faire chaque fois qu'il y a une contrariété qui se présente à nos yeux. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se faire? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous dérange? Pourquoi? Il y a différents niveaux de conscience et de connaissance par rapport à ces différentes situations, ces laboratoires de contrariétés. Donc les différentes questions, c'était d'abord pour savoir qu'est-ce que je ressens. C'était après, en amont, vous vous souvenez, en amont, est-ce que je ne suis pas arrivé dans ma situation de difficulté, de contrariété, de blessure, déjà avec une condition de sensibilité? Est-ce que j'étais vraiment dans un état vraiment de plénitude, de perfection d'esprit et de tranquillité à l'instant que les événements se sont produits? Est-ce que c'était vraiment ça mon état d'esprit? Donc, on commence à enlever une petite couche de d'inconscience. On s'était peut-être même pas posé la question, mais dans quelles conditions est-ce que j'arrive dans ma situation? On s'était peut-être même pas posé la question. Maintenant, on pose la question. Si vous arrivez une pépin, si vous risquez un moment de contrariété, posez-vous la question. Comment j'étais? Après, c'était l'orientation de ma perception, de ma sensibilité. Est-ce que j'étais entièrement tourné à l'intérieur pour garder et pour commencer le travail de garder ma tranquillité d'esprit? Ou est-ce que toute mon attention était tournée vers l'extérieur pour dire, mais c'est qui me fait ça? C'est qui a fait quoi, à qui et comment, et déterminer toutes les actions de chacun, de les noter chronologiquement sur un papier à ce moment-là, et pour commencer à développer les arguments, monter le procès, comme on dit. Mon attention, comment il est porté quand les choses se déroulent? Quand je réfléchis à ces grands moments de désarroi dans ma vie, mon attention est portée comment? Est-ce que je focalise encore pour trouver ce qui nous unit entre les différents êtres? Ou est-ce que je focalise sur ce qui nous sépare, ce qui nous fait vraiment différent? Celui qui était le bon, celui qui est le méchant. Et après, à la fin, question 4, c'était, sommes-nous différents ou pareils? Qu'est-ce que c'est mon état d'esprit par rapport aux différents acteurs? Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous voyons, est-ce que nous focalisons sur nos différences pour renforcer que nous sommes bien séparés, qu'il n'y a certainement pas un enfant de Dieu parmi nous? Un seul enfant de Dieu, ben certainement pas. J'en suis peut-être un, les autres, je ne sais pas. Okay? Nous sommes certainement plus différents que nous sommes pareils. Comment est porter et focaliser et orienter mon attention? Ça, c'était pour l'étape quoi? Et aujourd'hui, nous avançons vers l'étape pourquoi. Encore travailler sur une fiche de questions pour développer, peaufiner notre sensibilité, une sorte d'écoute ou de vision intérieure pour savoir un peu plus. Mais comment les choses se passent vraiment? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On va découvrir des choses le reste de la journée maintenant. Et voilà notre travail. Mais d'abord, je voulais savoir si vous avez des commentaires à faire par rapport à la dernière fois et la fiche sur laquelle on a travaillé. Vous vous souvenez, je vous ai sur quoi nous avons travaillé la dernière fois. Ça a été, c'est on a bien passé l'après-midi, je me souviens. Il y avait des questions, c'était bien. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par développer notre écoute intérieure, commencer à développer une certaine sensibilité par ces questions. Vous avez travaillé sur vos fiches depuis que je vous les avais données la dernière fois. Vous avez pu regarder un petit peu, réfléchir. En fait, on a deux personnes qui ne les ont pas, je crois. Florence et Bogui. D'accord. Je l'ai changé un tout petit peu entre temps, mais c'est pas dramatique, très peu. Donc c'est juste pour faire quelques petites nuances de plus. Mais il est. Ah oui. Ah, si vous en avez pas, je les ai remis. Si vous n'en avez pas. Et de toute façon, avec le petit changement, voilà, un pour deux là-bas. Mais c'est très peu de changements. Hein. Juste, comme, j'en ai pas trop. Si vous pouvez partager là, Christine, tu peux partager avec Yona. Ah oui, mais j'ai fait quelques petits changements, mais très très peu. C'est juste pour qu'on puisse suivre un peu mieux. Ça fait déjà un peu. Ça fait quoi déjà? Une heure. Mais ce que nous pouvons faire encore, ça va nous aider à passer l'après-midi. On va vous remettre en petit groupe peut-être, juste pour réfléchir à ça, pour vous remettre les idées en place. Et puis je vais visiter les différentes tables. Hein, si ça vous dit, vous pouvez aussi prendre un verre parce qu'il fait chaud. On peut ouvrir les portes. Pour éviter un sommeil précoce, la petite sieste spontanée. Donc.